Lorsque je suis parti de Saint-Vladimir à New York en 1988, c'était il y a 21 ans. C'était un an avant la chute du mur de Berlin qui a changé la face du monde et heureusement pour les églises orthodoxes de l'Est. J'avais demandé au père Jean-Léador comment vais-je faire à Paris. Et il m'avait dit allez partout où c'est canonique, rencontrez tous les orthodoxes qui sont orthodoxes et surtout ne vous mêlez jamais de leur querelle. Dans le monde antique, on disait aux chrétiens voyez comment ils s'aiment, n'est-ce pas? Et j'aimerais être sûr que nous soyons toujours à la mesure de ce témoignage. Donc je suis venu ici ce soir volontiers, par amitié pour Serafin Lamizère, par amitié pour nombre d'entre vous, aussi dans la joie de retrouver Mgr Hilarion, que j'ai vu, je crois, pour la dernière fois lors de sa soutenance de thèse de doctorat à Saint-Serge, un doctorat qui porte avec lui l'honneur, en produisant certainement une œuvre qui est des plus remarquables aujourd'hui en langue russe pour le monde de la théologie orthodoxe. Donc je suis, voilà, venu ici ce soir, mais alors évidemment, comme Séraphin aime compliquer les choses, et comme il croit que j'ai des talents fous, il a fait de moi d'un coup un historien de l'Église, ce que je ne suis pas vraiment, puisque j'enseigne plutôt les terres que l'histoire de l'Église, mais je vais essayer de me débrouiller avec ce sujet de la primauté avant le premier millénaire. C'est une réflexion plutôt d'historien que canoniste. Le problème de l'histoire, c'est qu'on est dans deux illusions, évidemment. La première, c'est que celui qui professe l'histoire serait sans grille herméneutique, serait sans une lecture de l'histoire qui serait unilatérale, et évidemment, c'est faux. Toute histoire est conditionnée par l'histoire pour laquelle elle s'est faite. Et la deuxième, c'était un peu l'illusion du mouvement œcuménique. On avait dit, allons voir les textes. Et les textes nous diront la vérité. Et les textes nous ont dit notre propre vérité. On s'est rendu compte qu'on lisait les textes différemment à travers des méthodes d'interprétation différentes qui étaient elles aussi conditionnées par l'histoire. Donc l'histoire, je vais retracer. Je ne prétends pas qu'elle soit parfaitement objective. Et je ne peux pas prétendre non plus qu'elle ne soit pas parfaitement libre des considérations actuelles dans lesquelles nous sommes, puisque nous croyons à une théologie de l'histoire, c'est-à-dire non seulement à une méthode historique en théologie, mais au fait que notre propre histoire est animée par Dieu. Alors, pour ce qui est de la tradition, de l'Évangile et du Nouveau Testament, des pères, des conciles, une large tradition qu'on retrouvera chez des auteurs aussi divers, dont l'un a lu l'autre, mais l'autre n'a pas lu l'un, le père Athanasiev et Jean-Sébastien. Il y a une évidence première, c'est que pour la tradition, l'Église qu'on divise, il n'y a pas d'ecclésiologie en soi. L'ecclésiologie est devenue un département de la science théologique. Au XXe siècle, au moment même, on ne savait plus très bien ce que c'était que l'Église. Il n'y a pas d'ecclésiologie en soi, il n'y a pas une manière de traiter l'ecclésiologie en dehors de ce qu'on appelle la sotériologie, c'est-à-dire du salut qui nous est présenté. Enfin, évidemment, pour aller très vite, il était impossible, dans le cadre des pères, dans le cadre de la tradition, de penser l'Église en dehors de la communauté unitaire, et en dehors aussi du Père et de la monarchie du Père, qui est lui-même source de toute communion. Il est impossible de penser donc l'Église en dehors de la triadologie, il est impossible de penser en dehors de la christologie. En tant que corps du Christ, en tant que corps eucharistique, nous formons un seul corps car nous participons du même pain, dit Saint Paul dans le premier livre aux Corinthiens. Et ce sens-là, évidemment, c'est le sens d'une. La synaxe eucharistique est fondatrice de la synodalité épiscopale, de la collégialité épiscopale, de la consularité, de la manière que l'image de la Trinité est fondatrice de la consularité. Et en fait, cette idée même du corps, c'est une idée extrêmement locale du corps, telle que l'exprime Ignace d'Antioche, n'est-ce pas, là où l'évêque et l'Église, Et en fait, il n'y a pas besoin, évidemment, pour qui que ce soit, d'aller à Rome, à Genève, ou dans les autres Roms, pour trouver le salut. Le salut, il est là où l'Église est constituée dans la plénitude de la révélation de la grâce et dans la succession apostolique. Qui plus est, évidemment, l'Église est en fait d'Église locale, c'est cette consubstantialité eucharistique qui fonde la vérité dans l'amour et, évidemment, l'unité dans la diversité. Enfin, il n'y a pas de sens de l'ecclésiologie qui ne soit pas primatologique pour les pères. L'Église n'est pas que le corps du Christ. Elle est le temple du Saint-Esprit. Elle le vit de manière épiclétique. Elle attend la venue de l'Esprit. Et très clairement, dans toute la tradition, il n'y a pas un épiscopat qui serait fixé des jurés, simplement par ses conditions juridiques, qui ne soit pas en même temps un exercice non pas au-dessus de l'Église, mais au sein de l'Église, animé par le Saint-Esprit, qui non seulement vérifie cet épiscopat, mais en même temps le rend effectif. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'unité de la foi qui fonde la vie de l'Église, et non pas l'inverse, c'est-à-dire la recherche de la communion qui pourrait fonder la vérité de la foi. Donc, en fait, pour aller très vite, il faut le dire comme le père Athanasien, c'est peut-être quand l'Église a commencé à être un peu moins l'Église du Saint-Esprit, si l'on peut dire comment on peut être un peu moins l'Église du Saint-Esprit, mais quand même, c'est-à-dire quand elle a rencontré le cadre de l'Empire, qu'en fait, il a fallu édicter des règles juridiques. Les règles juridiques manifestent une relation concrète à l'histoire. Et initialement, à une histoire qui a pour cadre un empire. Hier, persécuteur, aujourd'hui, c'est-à-dire vers le début du IVe siècle, aujourd'hui, défait, subverti par l'amour. Donc, jusque-là, il est assez difficile, même si on se réfère aux constitutions apostoliques, qui est un texte, en fait, un texte qui, en fait, est d'ores et déjà lié à l'émergence de structures, il est tout à fait difficile de tirer des leçons de la conception, d'une conception en quelque façon juridique de l'Église, des apôtres, des martyrs, des docteurs, etc. Donc, comment est-ce que l'unité se manifestait avant qu'elle émerge une forme de corpus juridique? Elle se manifestait par le sacre épiscopal, qui est toujours un sacre de voisinage. C'est le premier point. Et deuxièmement, ces sacres de voisinage ont fait petit à petit qu'il y a eu effectivement des rencontres entre églises locales qui ont permis de dégager des regroupements qu'on a appelés synodes, conciles, et que ces synodes et conciles ont évidemment suivi une logique territoriale. Et que cette logique territoriale a fait que dans ces rencontres, évidemment, on a suivi une hiérarchie qui était plutôt, il faut le dire, celle du nombre, à savoir que les communautés les plus importantes recevaient sous forme, on le verra, d'honneur, mais pas simplement d'honneur, avec forcément une autorité, et qui n'était pas une autorité juridique, liée à leur statut, une forme de présidence. Donc, cette affaire est assez importante parce qu'en fait, le droit canon qui naît à partir du moment où l'Église devient l'Église impériale, il est assez facile à suivre, n'est-ce pas? Quand on voit le mot canon, il y a sur cette question de primauté toute une série de textes, le 34e canon apostolique, 4e, 6e, 7e de Nicée, on le verra tout à l'heure, 9e d'Antioche, 3e de Constantinople, 8e d'Éphèse, 9e, 7e et 8e de Calcédoine, 3e, 4e et 5e de Sardique, 17e et 39e du Concile de Carthage, 36e, 39e, 10e Concile de Tunisie. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, le terme de primauté n'existe pas, sauf pour ce qui est des. C'est un mot latin, c'est pas un mot grec. Le terme de primauté n'existe pas, sauf évidemment par la sphère proprement latine de l'église de Carthage et des églises latines d'Afrique du Nord. Chose importante, parce que ce langage de la primauté va forcément influencer le devenir de l'église en Occident, en raison du rayonnement extraordinairement fort. Mais en fait, prima, n'est-ce pas, c'est un terme latin, en grec, on dit protos, et il n'y a pas même aujourd'hui de terme en grec pour désigner, qui ne serait pas un néologisme, pour désigner la primauté, puisque ce terme, évidemment, surtout dans un contexte occidental, est surchargé de sens, rétrospectivement, par la valeur que lui ajoutait, évidemment, la papauté. Donc il y a un premier, dont on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est, ce premier, mais un premier de quoi, de qui, et dans quel ordre, qui n'est pas un prima avec ce que, forcément, on va attacher le sens juridique au terme. Donc, en fait, il y a un premier évêque parmi les évêques, quand ils se réunissent. C'est un protos. C'est exactement ce que dit Photius lorsqu'il dit que, en fait, il y a des patriarches et des métropolites qu'on appelle en Afrique des primats. Donc, je ne veux choquer personne, mais le terme de primat, ça ferme avec plus l'amour que j'ai pour, particulièrement, en général pour l'Afrique et particulièrement pour l'Afrique du Nord, est un terme africain. Donc, en fait, on va aller assez vite. Pour l'Église des premiers siècles, le synode et le synode, le concile, la réunion, le rassemblement, est dans sa forme bien marquée ou mélangée avec l'histoire, c'est l'organe de la plus haute autorité. Et même dans les réalités qui ont tendance à se constituer de manière monarchique, Rome, Antioche, Alexandrie, pour commencer, le synode, le primat n'a jamais été au-dessus du synode, jamais, dans le premier siècle. Alors, évidemment, par rapport à ça, il y a eu quand même toute cette formation historique dans l'histoire. Il y a un ordre historique des églises locales. Il n'est pas, on y reviendra, de droit divin, il n'est pas inscrit dans la révélation, il participe de l'histoire. Évidemment, l'histoire de l'Église, ce n'est pas rien pour l'Église, non plus. Mais il faut voir qu'on est dans un ordre symbolique et qui articule quand même deux grandes questions. C'est la réception de cet ordre, telle que cette réception peut être vécue et acceptée. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est que le critère de cette réception, c'est la sollicitude que manifestent ses membres à l'égard des églises en danger, des églises divisées, à l'égard des églises plus petites, églises locales plus petites. Et donc, cette double articulation de la réception et de la sollicitude montre que depuis le départ, ça a été une affaire dynamique qui ne relevait pas encore une fois des textes juridiques, mais de la vie même. Dans l'ecclésialité. Donc il y a des presbyéa, il y a des privilèges qui sont accordés à certains centres. Alors ces centres, ils correspondent au fait que l'Église a endossé la structure juridico-administrative de l'Empire. Éparchie, diocèse, territoire, province. Et en fait, donc, le premier signe de cet endossement, il est d'ailleurs un peu antérieur à la conversion de l'Empire, il est dans le 34e canon dit apostolique, qui en fait relève plutôt du 3e siècle que dans les apôtres. Et en fait, on va voir que dans les conciles dits œcuméniques, bien que le terme soit assez vague, puisque ces conciles œcuméniques veulent simplement dire les conciles impériaux, convoqués par l'Empire, par l'empereur, n'est-ce pas ? Alors le terme depuis a transité, a pris d'autres sens, mais œcuménique, ça veut dire le concile œcuménique, ça veut dire le concile impérial. D'ailleurs, réduirait un peu la sacralité qu'on leur porte, et comme ça, on n'aurait pas besoin d'expliquer pourquoi l'Église orthodoxe n'a produit que sept conciles œcuméniques, et c'est très simple, c'est parce qu'il n'y a plus d'empire depuis le 8e siècle. C'est aussi simple que ça. On n'aurait pas de quoi se prendre le ventre en se disant qu'on n'est pas capable de faire un concile. Puisqu'il n'y a plus d'empire pour priorer la consigne impériale. C'est ça que ça. Donc, évidemment, ce que dit le canon 6 de Nicée, qui est le premier concile œcuménique, c'est que d'abord, les groupements d'église locales se feront dans les limites des provinces civiles, et le concile provincial réuni régulièrement sera présidé par l'évêque de la capitale, dit métropolite. On est dans une optique assez pragmatique d'efficacité. L'évêque de la plus grande ville a des chances d'avoir la plus grande autorité. C'est aussi simple que ça aussi. Il ne faut pas chercher, de ce point de vue-là, si on n'a pas cette expression un peu sudiste, midi à 14h. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, on verra que dans les conciles, tous les évêques se rassemblent autour de leur protos. De celui qui est le premier évêque, soit du diocèse au sens romain, qui est très large, hein, diocèse romain, c'est pas, ça peut être une région entière, et non pas selon des affinités théologiques. Donc c'est une mise en ordre. Et donc, ce canon 6, malgré tout, admet qu'il y aura des exceptions en faveur de trois évêques, ceux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, parce que leur autorité dépasse celle d'une sainte province. Et en fait, le Concile de Nicée leur confère le droit de procéder, ou d'approuver plutôt, je crois que c'est d'approuver, les élections épiscopales dans des territoires plus grands qu'une seule province, dans plusieurs provinces. Alors, évidemment, c'est là où on commence à être dans l'interprétation, c'est que, ultérieurement, lorsque les bagarres commenceront entre ces grands centres, on voudra expliquer leurs privilèges de par le fait qu'ils auraient des origines apostoliques, tous les trois. N'est-ce pas? Bon. C'est évidemment totalement, enfin, c'est totalement une reconstruction. Totalement une reconstruction. C'est parce que ce sont les trois plus grandes villes de l'Empire. Point. Bah. La démonstration est facilement faite. S'il avait fallu concéder un rang d'honneur exceptionnel à une ville, c'eût été Jérusalem, qui pouvait quand même s'enorgueillir d'un peu plus qu'une fondation apostolique. Or, Jérusalem, jusqu'à très tard, est restée sous l'autorité du métropolite de Césarée en Palestine, comme un petit évêché suffragant sans aucune importance, ou presque. Sauf évidemment pour la mémoire qui a été attachée, encore je ne suis pas sûr, parce que le phénomène du pèlerinage est un phénomène tardif. Parce que ce que caractérise le christianisme par rapport au judaïsme et à l'islam, c'est que la notion de pèlerinage y a été pendant très longtemps et fort heureusement absente. Donc, le second concile œcuménique de Constantinople, 381, consacre la ville choisie par Constantin pour être sa capitale comme la nouvelle Rome. C'est le fameux canon 3, on va y revenir un moment tout à l'heure, mais je ne maintiendrai pas le suspense. Il est évident que la nouvelle Rome reçoit les mêmes privilèges que l'ancienne Rome, parce qu'elle est la nouvelle Rome après l'ancienne Rome. C'est-à-dire la capitale de l'Empire. Ça, c'est certain aussi. Troisième chose, c'est qu'en Chalcédoine, il y aura une idée de partager l'univers, qui se redressit d'ailleurs, hein, à ce moment-là, c'est d'ailleurs c'est tout à fait paradoxal, tout à fait une logique théologico-politique. C'est au moment où on perd ses marches, où les dix monophysites s'enfuient, que d'un coup, on ne peut parler que de tout l'ensemble de l'univers habité. Plus l'Empire va se redressir, plus il se prendra pour le monde. Et donc, on a la consécration des cinq patriarcats, la Pentarchie, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Alors, leur privilège, évidemment, c'est que ils peuvent effectivement présider aux élections des métropolites provinciaux, et ces derniers sacrent les évêques de leur province, vous voyez. Donc on est dans un phénomène de cascade, mais il y a deux choses à retenir essentiellement. La première, c'est que l'origine apostolique n'est pas plus mise en valeur. Ça va être important avec Rome, bien sûr. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement une ambiguïté de cette notion de patarchie, parce qu'elle se veut close, puisqu'on est dans un univers qui est achevé, et évidemment elle ne tiendra pas sous les coups de contour de l'espoir. Et la troisième chose, évidemment, c'est que cette patriarchie ne va pas tenir. Elle ne va pas tenir parce que l'histoire est toujours plus grande que les règles. Alors, évidemment, elle ne va pas tenir parce que dès le 5e siècle apparaît en fait la discorde entre l'ancienne et la nouvelle Rome, entre Rome et Constantinople. Il est très important de noter que le combat qu'engage alors Rome, l'empereur étant parti et ayant laissé derrière lui l'évêque de Rome, ce qui est un geste qui va expliquer toute l'histoire de l'Occident, latin puis réformé. En faisant ce geste-là, évidemment, l'empereur dégage, je ne vais pas faire son intention subliminale, il y a des tas de leçons dans cette histoire, dégage dans le siège romain une telle angoisse de censure que désormais Rome va vivre dans l'obsession d'asseoir ses droits face à Constantinople. On ne peut rien comprendre, je crois, à l'histoire du siège romain si on ne comprend pas cette angoisse de la disparition. C'est d'ailleurs une histoire à la fois tragique, forte, pour laquelle on ne peut avoir que de l'empathie, Rome au 5e siècle, prise par les barbares, abandonnée par l'empereur, qui jusque-là a été le protos, encore une fois je reviendrai à la définition de ce terme ensuite, qui a été manifestement le protos, sans conteste, vit dans l'angoisse de sa propre disparition. Deuxièmement, il y a un véritable problème pour Rome, c'est que Rome est le seul centre qui puisse se targuer d'une origine apostolique en Occident. Et donc, concentre, en quelque sorte, c'est la capitale de l'Empire, et c'est aussi la concentration du lien à l'origine. Et ça, évidemment, c'est une force symbolique tout à fait extraordinaire. Et c'est pourquoi va naître très rapidement, et né déjà au 5e siècle, toute cette théorisation de Matthieu 16, 18, 19, tu es Pierre, etc., de Jean 21, 17, 5, qui évidemment repose, du point de vue de l'interprétation générale des pères, sur une sorte de réduction de plusieurs problèmes qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, qui est d'abord la place de Pierre dans le collège des apôtres, une question en soi, qui reçoit divers traitements. Ensuite, la place de Pierre par rapport à Rome. Et enfin, qu'est-ce que c'est que la succession apostolique du point de vue de l'épiscopat? Et la place, pour finir, de Rome dans le concert des églises. Alors là, ça perd une réduction extrêmement forte, qui fait évidemment de Pierre le fondateur et le premier évêque de Rome, et d'une transmission, donc, d'une primauté qui aurait été exercée au sein du collège apostolique et donnée par le Christ lui-même. La construction n'est pas sans talent et sans force, la preuve. C'est que, a quand même été extrêmement fécond dans l'histoire. Mais il est évident qu'il sera très difficile, en dehors du siège romain et des auteurs qui lui sont affiliés, de trouver une construction qui soit égale dans l'ensemble des pères, dès lors que l'on ne confond pas la rhétorique gréco-byzantine avec une adhésion théorique. Puisque, en fait, sur cette affaire-là, on cite indéfiniment des lettres patriarcales, des textes de théologiens, etc. Nous tournons vers le siège de Rome, comme le siège du coryphée des apôtres, etc. En fait, il faudrait recontextualiser ces textes. Il est évident que ce qui prime, pour le coup, chez Pierre, dans la théologie des pères, ce qui prime, c'est pas sa primauté, qui serait en quelque sorte mécanique, ce qui prime, c'est sa confession de foi, et c'est la fonction iconique, on pourrait dire, de cette confession de foi pour tout évêque et pour chaque chrétien. Voilà, encore une fois, on en revient à la notion essentielle de communion. Alors, il est évident par rapport à ça que deux ecclésiologies du 5e siècle commencent à s'opposer. Et chacune a sa propre interprétation de la primauté. L'une se réfère à une sorte de primauté de droit divin, instituée à jamais, qui récapitule évidemment des droits exceptionnels, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est la primauté d'un droit ecclésiastique qui est reconnu dans ses limites, le droit ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'être remplacé dans son contexte parce qu'il n'y a pas une part du droit ecclésiastique qui existerait éternellement, il faut le dire. Parce que tout le droit ecclésiastique est produit dans l'histoire. Encore une fois, c'est cette notion de ville capitale, de ville impériale qui sont attachées au centre, au grand centre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, évidemment, d'abord, il y a eu évidemment tout le débat dans ce premier millénaire, n'est-ce pas, sur la revendication romaine d'être le siège de l'orthodoxie, qui concentrait l'orthodoxie et qui serait donatrice de l'orthodoxie aux autres. Ça, c'est une chose que les pères n'ont jamais acceptée. D'abord parce qu'ils avaient de bons exemples de papes qui n'avaient pas été dans l'orthodoxie. C'est le cas d'Honorius. Et deuxièmement, quand même, il faut l'admettre, cette revendication romaine était malgré tout fondée sur l'exemple de quelques grands papes, Léon Ier, le pape Martin, qui effectivement avait été dans des moments difficiles, mais garant de l'orthodoxie. Ce qui veut dire qu'effectivement, la primauté ou la proto-éité, pour qu'on comprenne les termes, peut effectivement être un exercice salutaire dans l'histoire, non pas parce que le siège est dépositaire de l'orthodoxie en soi, mais parce qu'il confirme une orthodoxie qui ne vient pas de lui et dont il n'est pas propriétaire. Ça, c'est son histoire. Alors, évidemment, quand on regarde vaguement, même comme moi, les historiens connaître les conseils ecclésiastiques, on s'aperçoit qu'entre ces deux ecclésiologies, l'interprétation la plus simple des conseils ecclésiastiques donne évidemment raison à la deuxième version. Le droit ecclésiastique est un droit limité, contextualisé, à des nécessités historiques, et sur lequel on ne serait trop mettre de valeurs hyper symboliques, telles origine apostolique, confession de foi immuable, etc. Nous sommes dans l'histoire, dans la relativité de l'histoire. Et c'est l'histoire qui prend le sens de ce droit, et ce n'est pas ce droit qui peut imprimer son sens à l'histoire. Donc, par rapport à ça, évidemment, je dirais que si l'Orient n'était pas l'Orient, le dossier serait beaucoup plus clair, parce qu'il ne serait pas encombré par toutes ces déclarations hyper différentes au siège de Pierre, mais on en trouve d'autres à d'autres sièges, n'est-ce pas ? Une espèce de langage hyper fleuri, qui fait que, effectivement, nos frères catholiques romains sont en même capable de nous montrer quelques pièces embarrassantes d'un point de vue familial. Maxime le Confesseur, pour des raisons très existentielles de survie, n'étant pas le dernier d'ailleurs à donner là-dedans, avec en plus son autorité inégale et quoi. Mais enfin, le choc entre cette ecclésiologie de la communion pour la vie et une ecclésiologie à prétention de juridiction universelle explique le schisme. Dans ces circonstances historiques et politiques. C'est bien l'incompatibilité entre ces deux visions, l'incompatibilité profonde, qui a fait imploser le christianisme. Ça, c'est aussi une leçon d'histoire. En fait, le conflit va être rampant jusqu'au 9e siècle, à peu près, au moment même où, enfin, il affleure énormément avec la réception du 7e concile œcuménique en Occident. Si on y vient de le dire, je vais aller un peu plus vite, donc ça sera fin. Mais rapidement, il apparaît surtout avec société spirituelle, politique, ecclésiologique, qui non seulement se distingue de l'héritage du christianisme impérial, mais s'y oppose et revendique, en fait, dans une sorte d'égalité hérétique, d'en être l'inverse. Alors je vais passer sur cette longue histoire. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est la dernière fois où l'Église de Rome a joué son rôle de protos en tant que rôle de pont et de passerelle. Et non pas parce qu'elle était investie d'une mission particulière, mais parce qu'elle s'est conformée à l'orthodoxie. Non pas parce qu'elle était dépositaire à cette orthodoxie, parce qu'elle a vraiment lutté contre en plus, n'est-ce pas? Mais parce que, en fait, il y a eu une réaction d'orthodoxie dans la papauté elle-même, qui était encore assez grecque, assez hellénophone, assez liée à l'ensemble de la grande symphonie patristique conciliaire, et non pas liée au monde latino-barbare qui était né avec l'Empire carolingien, pour effectivement accomplir ce ministère d'unité, terme, pour ma part je l'accuse, parce qu'il n'y a pas de ministère de l'unité, il y a un service de l'unité, mais l'unité, évidemment, personne n'a produit. L'unité de foi, elle existe ou elle n'existe pas, mais elle n'est pas une recherche ou une production. Donc, je vais presque finir. Pour aller encore plus vite, puisque je vois que ça va faire, m'a fait venir les guillemets. Évidemment, on peut dire ça, c'est que, effectivement, après Nicolas Ier et Adrien II, c'est Jean VIII qui, en fait, d'une manière conciliaire, rétablit la foi, l'égard à la fameuse question, je ne sais pas, je le crois, rétablit la foi, et là, on est dans un service de l'unité, parce qu'on est dans un service de l'orthodoxie. Il n'y a pas une unité qui serait impensable hors de l'orthodoxie de foi. Donc, pour aller très vite encore, le Xe siècle se passe plutôt dans un ombre, évidemment, c'est en 1014 et non pas en 1054, que l'empereur Henri II vient se faire couronner à Rome par le pape Benoît VIII et que on chante à ce jour-là le Credo et le Filioque à Rome. En fait, c'est ce moment-là qui peut être vu comme le moment de rupture entre les deux Roms, puisque jusque-là, il y a beaucoup d'accrochages, il y a beaucoup de difficultés, mais là aussi, une véritable leçon, ce n'est que dans la rupture de la communion de foi que vienne la véritable rupture. Cela dit, les dérives d'un point de vue de la compréhension du ministère de l'Église encouragent aussi ces ruptures plus fondamentales sur la doctrine. Aussi une autre leçon de l'histoire. Alors, évidemment, toute l'affaire, c'est, je vais aller très très vite, c'est le fameux canon 28 de Calcédoine, puisqu'il confère en quelque sorte au patriarche de Constantinople la capacité de sacrer les évêques pour les églises de mission. Dans les faits, l'exercice de pouvoir est un exercice fluctuant. Il faut à la fois dire que le patriarche de Constantinople a accompli sa mission d'être missionnaire, et qu'en même temps, pour ses missions, il y a toujours eu des relations assez compliquées dans cette période-là. Pourquoi? Parce que, toujours la fameuse question de l'indépendance des nouvelles églises locales issues de la mission. Comme on est là dans un cadre impérial, encore une fois, où l'Église ne décide pas entièrement de sa politique et aujourd'hui a des intérêts vitaux aussi à préserver, on est dans une sorte de va-et-vient, en fait, où la mission ne se distingue pas vraiment de l'Empire. Je me rappelle qu'il y a des fameuses formules, et c'est pas mon sujet, c'est celle de Mgr Hilarion, c'est le sujet de Mgr Hilarion, il y a des fameuses formules sur les possibilités d'avoir l'Église sans l'Empire, qui sont plus tardives du XIVe siècle, mais c'est pas ma période. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que, en raison même de ce canon, que, en fait, Il y a eu deux choses qui sont passées dans le monde byzantin, puisque maintenant nous parlons dans le monde byzantin, quasiment byzantin. C'est d'une part le fait que la recherche de l'unité a toujours été fondée sur la recherche de l'unité de foi avec Rome, et non pas sur la recherche d'un consensus. Que c'est l'unité de foi. C'est très important, parce que l'unité de foi, elle comprenait la dimension ecclésiale. C'est-à-dire que très vite, en fait, à la question du doctrinal du filioque, s'est ajoutée la question de la papauté telle qu'elle s'affirmait toujours plus et telle qu'elle allait s'affirmer toujours plus à partir de la réforme grégorienne qui allait préfigurer la papauté moderne dont le Concile Vatican I a en quelque sorte représenté la clé et dont le Concile Vatican II a cherché à corriger les excès. Donc, en fait, il n'y a pas de question ecclésiologique et de question doctrinale non plus complètement séparées du point de vue de la représentation qu'on se fait du Christ de l'Église. Dernier point, c'est que, effectivement, surtout après les invasions musulmanes, on s'est retrouvé, en fait, dans le monde byzantin, bien que critiquant Rome, mais d'un point de vue de la praxis, dans une centralisation qui était tout aussi complète, puisque les patriarcats d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem, devinrent rapidement, en fait, des patriarcats soit réduits, soit transférés à Constantinople même, autour de Sainte-Sophie, de l'Église mère. Cette centralisation et cette unification, elle a utilisé pour, évidemment, dans cette période-là, toujours, hein, elle a utilisé pour vecteur l'arsenal canonique du Concile de Chalcédoine, qui explique bien que Constantinople recevra après Rome les mêmes honneurs que Rome. Alors le « après », ça a été longtemps débattu, mais les meilleurs canonistes byzantins sont tout à fait d'accord avec cela, c'est que le « après », ce n'est pas une succession chronologique, n'est-ce pas ? Mais c'est selon le modèle 2. Hein? Après. Et, en fait, ce que l'on voit, c'est que, évidemment, que veut dire cette égalité d'honneur? La question se passe de savoir, lors du Concile de Nicée, en fait, Rome, Alexandrie et Antioche, visiblement, ne bénéficient que de primauté régionale. Quant à l'idée d'une représentation universelle de la primauté romaine, elle ne fonctionne que dans le cadre impérial, il faut le dire aussi. Donc, la primauté de Constantinople vient après celle de Rome, parce que Constantinople est une ville impériale. Point. Il n'y a pas d'autre raison, même si évidemment, sur le modèle romain, on cherchera à donner une origine apostolique à Constantinople, voire plus tard à Kiev, avec un apôtre qui décidément aura visé beaucoup de ces semaines, par exemple, sur des routes incertaines. Pourquoi ? Simplement pour combler la valeur symbolique. Mais la valeur juridique, elle est claire. Donc, ces privilèges honoraires qui relève de la Saintarchie, n'empêche pas, et Balsamon, qui est un grand canoniste byzantin du XIIe siècle, je mange un peu là sur la période qu'on m'a laissé illustrer, je déborde un tout petit peu, Balsamon est très clair, l'instauration de primauté régionale n'empêche pas la persévérance des églises déjà instituées. Ce qui est bien la preuve, il n'y a pas un sens nouveau accordé, y compris avec ses doigts, à cette primauté. Je ne sais pas si c'est fini, non, trois mots, non. Donc, la primauté d'honneur est une primauté morale. En fait, les canons procèdent par aspect négatif. Souvent, ils disent ce qu'on ne peut pas faire, mais ils ne disent pas ce qu'on peut faire. Dans le cas de Constantinople, il n'y a pas de limite géographique donnée par le canon, certainement parce que le sens de ses limites était tout à fait évident aux contemporains. Parce que ce n'était pas une question. C'est une question peut-être actuelle, débattue actuellement, mais ce n'était pas une question alors. C'est pour ça qu'on ne l'a pas précisé. On ne peut pas en tirer un argument, là encore, d'universalité, à moins de tordre le cou au canon. Donc, en fait, le siège du protos, quel qu'il soit, régional, provincial, ou encore plus grand, impérial, a une autorité qui est strictement morale, et il peut faire valoir certains droits, et il peut faire valoir certains droits à mesure de son rayonnement. C'est le sens de la loi. Les privilèges ne sont accordés qu'à la mesure de la capacité de rayonnement. Ça, c'est très clair aussi. On est dans une logique, encore une fois, impérielle. Donc, les primautés au sens orthodoxe sont d'abord définies moralement, comme une autorité purement morale, et ensuite, elles reçoivent des contenus juridiques ou juridictionnels qui dépendent de l'effectivité, en fait, du rôle qu'on leur a accordé, c'est-à-dire de leur fonctionnalité. Ça, c'est clair aussi. Et évidemment, cette primauté n'a jamais voulu dire, alors évidemment, au sens du papisme, ça n'a jamais voulu dire évidemment que les évêques qui étaient des primats d'orthodoxie avaient des super pouvoirs magistériels ou des super pouvoirs doctrinaux, mais ça n'a jamais voulu dire non plus qu'ils avaient de super pouvoirs du coup, qui ne seraient ni doctrinaux ni magistériels. Donc, en conclusion, je me permettrai de citer mon maître, le père Jean Méador, c'était déjà il y a quelques années. Personnellement, je ne vois pas comment l'Église orthodoxe peut, mais cela dit, bon, ce rôle de premier siège donc, a existé et a été, pour l'orthodoxie, non un peu difficile, une réalité historique. C'est un événement. Dans la limite, je suis fini. Personnellement, je ne vois pas comment l'Église orthodoxe peut accomplir sa mission dans le monde aujourd'hui sans le ministère d'un protos, et qui ne serait plus défini dans les termes dans lesquels on pouvait l'appliquer sous le temps de Byzance, et qui ne correspondrait pas non plus à une juridiction universelle qui serait selon le modèle romain, en quelque façon que ce soit, mais qui reprendrait en fait les définitions des conciles et qui arriverait à redéfinir ce privilège dans une façon qui serait pratique et efficace pour aujourd'hui, puisqu'encore une fois, il n'y a pas d'autre sens au canon de l'Église que de suppléer au manque d'efficacité et de sens pratique là où l'Église du Saint-Esprit est manifestement à la peine de trouver son chemin dans l'histoire pour le salut de l'homme.